France Inter. Le 7-9.
7h52, Alexandra Ben Saïd, votre invitée ce matin, est vice-président et porte-parole du groupe La République En Marche.
Gilles Legendre, bonjour.
Bonjour.
Un texte majeur, la loi Asile et Immigration, 312 députés En Marche. Alors on a beaucoup parlé de l'unique frondeur qui a voté contre. On a un peu parlé des 14 abstentions, mais franchement, le vrai sujet, c'est près d'une centaine de députés marcheurs qui n'étaient juste pas dans l'hémicycle. Est-ce que le silence vaut mieux que la désobéissance? C'est ça leur choix?
Alors, je vais vous décevoir, Alexandra Ben Saïd. C'est beaucoup plus simple que ça. Personne n'avait anticipé que le débat se prolongerait jusqu'à dimanche. Il y a beaucoup de députés qui avaient programmé leur départ, notamment à l'aune des grèves, pour rentrer en circonscription.
C'est satisfaisant sur un texte comme l'asile et l'immigration?
C'est pas satisfaisant, c'est comme ça. Et vous ne pouvez pas faire parler leur vote, puisque justement, ils ne l'ont pas exprimé. Donc, franchement, le texte a été adopté à une très large majorité, c'est ça l'essentiel. Il y a eu en effet 14 abstentionnistes, et on a raison d'accorder du crédit à ce vote. Il est légitime, il est compréhensible, il exprimait des convictions, des réserves, qui avaient été beaucoup plus vives et beaucoup plus nombreuses au début du processus législatif. Nous avons fait pendant 2 mois un travail formidable de rapprochement des points de vue, de recherche d'un compromis, entre nous et d'un recherche de compromis avec le gouvernement.
Vous n'entendez pas, vous ne voulez pas interpréter le silence. Pourtant, off, comme on dit, de manière anonyme, il y a des députés qui disent « Mais bien sûr, on n'a rien fait pour être vraiment là, il y a un malaise. » Gilles Legendre, y a-t-il un malaise dans le groupe des marcheurs à l'Assemblée?
C'est tout l'inverse. Je pense que ce texte, qui était en effet un texte compliqué pour nous, parce qu'il mettait en lumière des différences de sensibilité assez marquées, et sur des sujets qui tiennent aux convictions les plus intimes des personnes, je pense que précisément le fait que nous ayons passé ce cap a fait grandir ce groupe. D'ailleurs, quand vous interrogez les personnes...
Il n'y a plus de fragilité? Le groupe a grandi? Il y a une maturité qui s'est créée?
Vous savez qui le dit, ça, que le groupe a grandi? C'est les abstentionnistes eux-mêmes. Parce que pendant 2 mois, on leur a donné la parole, on a travaillé sur le fond du texte, et que ce travail-là, probablement, a renforcé la cohésion du groupe. Vous savez, il va falloir s'y habituer. Nous sommes 312, 313, depuis dimanche soir, 313. Cela représente une diversité et une richesse incroyable. Cette richesse, c'est d'abord une force. Et pour avoir la chance d'être un des co-animateurs de ce groupe, auprès de Richard Ferrand, notre président, je sais ce qu'elle apporte en termes d'enrichissement du travail parlementaire. Mais cette richesse, elle porte aussi une variété, une diversité, qui de temps en temps peut s'exprimer, donner l'impression d'une dissonance. Ce travail-là...
Et il y a assez de débats, il y a assez...
Ah ben là, oui.
Il y a assez de débats au sein du groupe En Marche.
Écoutez,
pour que toute cette richesse s'exprime.
Vous ne trouverez pas un député, y compris parmi ceux qui sont opposés à ce texte ou qui étaient abstentionnistes, qui vous disent le contraire. Nous avons débattu des jours, des heures, indéfiniment. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes arrivés à un texte qui est assez différent de la version initiale.
Mais en même temps, si j'ose dire, avoir le Front National au complet, en soutien sur certains amendements, alors que Emmanuel Macron a été élu aussi, en partie, en rejet de Marine Le Pen, est-ce que ça, c'est pas un contresens démocratique?
Je ne voudrais pas être arrogant, mais le Front National au complet, c'est moins exigeant que la République En Marche au complet.
Oui, mais là,
vu leur
là vous me parlez chiffres, moi
je vous parle philosophie.
C'est vous
qui me parlez chiffres depuis le début.
Vous faites
des comptabilités de vote.
Ah, c'est important la comptabilité de
vote.
Non,
ce que j'ai vu avec le Front National, c'est qu'il y avait des connivences assez fortes qui s'étaient exprimées avec les LR. Un des enseignements politiques de ce débat, c'est pas savoir s'il y a eu X ou abstentionniste République En Marche, ou X votant ou X non votant. Il a fait apparaître de façon très claire un clivage très fort entre d'un côté la droite et le Front National et nous.
Donc il n'y a pas de contresens démocratique?
À partir du moment où le vote s'était exprimé dans toute sa légitimité, il n'y a absolument aucun contresens démocratique. Ce texte a été voté à une large majorité en première lecture.
Voyez-vous parmi les taiseux, les silencieux de votre groupe, les déçus peut-être du macronisme, la tentation de créer un nouveau groupe à l'Assemblée? C'est ce qu'on entend.
Je n'y crois pas un seul instant. Je reviens à l'essentiel, la diversité de ce groupe, la variété des opinions qui s'y expriment. Si vous pouvez penser...
Et après, si on vote contre, c'est dehors.
Non. Ah, si on vote contre, c'est dehors. Si on vote contre, c'est grave. Oui, c'est vrai. On ne vote pas contre sa majorité. On ne fait pas battre un ministre en commission. On ne vote pas contre un texte d'un gouvernement que l'on soutient. Ça, c'est vrai. Les abstentions, c'est autre chose.
Gilles Legendre, on parle des colères sociales. Qu'en pensez-vous? Si la SNCF est encore en grève cet été, c'est que ça aura été mal géré, tous ces conflits?
La SNCF ne sera pas en grève cet été.
Vous le savez?
Oui, j'en ai la conviction. Pour une raison très simple, c'est que la loi a été votée et la loi incorpore un certain nombre de concessions qui nous étaient réclamées par les syndicats eux-mêmes. que, évidemment, la stratégie syndicale ne s'adapte pas en temps réel au vote de la loi, c'est normal. Qu'il y ait encore des difficultés de transport, c'était assez prévisible. Je crois que maintenant, le nouveau cadre dans lequel la SNCF va pouvoir se transformer, engager sa transformation avec les syndicats, pas contre les syndicats.
Pour l'heure, les syndicats n'ont pas la même vision que vous. Hein.
C'est normal. Le conflit, oui, enfin, les syndicats n'ont pas la même vision que nous. Il y a quand même une toute petite minorité des salariés de la SNCF qui aujourd'hui soutiennent le mouvement. On est à 20%. C'est-à-dire qu'il y a 4 salariés sur 5
beaucoup
de la SNCF
qui
veulent travailler et travailler normalement et donner à l'entreprise toutes les chances de se transformer et de remplir régulièrement ses missions.
Alors, à votre avis, Gilles Legendre, pour l'instant, l'opinion publique ne suit pas. Hein. Il y a les étudiants, il y a les ADIS, il y a les hôpitaux, il y a les cheminots, il y a Air France. L'opinion publique ne suit pas. À votre avis, il est où l'écueil dans les mois à venir? Est-ce que c'est le pouvoir d'achat? Est-ce que c'est la prochaine réforme des retraites? Est-ce que c'est la réforme des fonctionnaires?
Il n'y a pas d'écueil. Il y a un enjeu politique majeur que nous devons relever et que nous n'avons pas encore réussi à relever et qui va prendre quelques mois. C'est inverser le cercle de la défiance en cercle de la confiance dans notre pays. Nous sommes malades, tous collectivement, d'une défiance majeure envers l'action publique, envers l'action des politiques. Et je dois dire que cette défiance est fondée compte tenu de l'énorme faillite qu'a enregistré l'ensemble de l'action publique depuis des décennies dans ce pays.
Vous ne croyez
toutes
pas que
les crises...
Français vont plutôt se dessiner en fonction de leur porte-monnaie, de ce qu'il y aura sur la feuille d'impôt?
Mais sur le porte-monnaie, c'est bien parce que le porte-monnaie, il va s'accroître. Il s'accroît progressivement avec des baisses d'impôts, des baisses de charges, des baisses de fiscalité locale qui vont s'étaler dans le temps. Donc les Français vont en prendre conscience.
Oui, pour l'instant,
même
ils ont surtout vu les baisses d'impôts pour les entreprises. Le macronisme, finalement,
oui,
c'est pro-business le bilan d'un an.
Non, c'est pro-emploi. C'est pas pro-business. La principale inégalité dans notre pays, c'est pas l'inégalité des revenus. C'est l'inégalité vis-à-vis du travail. Le mal profond qui gangrène notre pays depuis des années, c'est un chômage de masse structurel. La principale inégalité, c'est le chômage qui frappe les plus vulnérables. Toute l'action de notre gouvernement en matière économique et sociale est précisément pour mettre fin à cette injustice. Je comprends que ça soit moins facilement compréhensible quand on explique qu'on va baisser l'imposition sur les entreprises ou sur le capital. C'est pour soutenir l'emploi. C'est pour soutenir l'emploi.
Et d'ailleurs, lorsque Bercy réfléchit encore à des baisses d'impôts sur la production pour les entreprises
pour
aujourd'hui...
Pour la compétitivité des entreprises, c'est pour l'emploi, c'est pour l'investissement. Et ce que je constate, c'est que ça commence à bouger. Vous avez vu que la croissance redémarre. Vous avez vu que pour la première fois
depuis...
Ça, c'est
l'effet Macron. En un an, la croissance redémarre. C'est l'effet Macron.
C'est notamment...
Il y a du bilan Hollande.
Il y a du bilan Hollande. Il y avait un certain nombre de mesures qui avaient été engagées. Mais c'est principalement le choc de confiance que nous sommes en train de réaliser, notamment vis-à-vis des investissements.
Gilles Legendre, vice-président du groupe La République En Marche à l'Assemblée, toujours confiant.
Merci.
Merci à tous les deux.